Europe 1, il est 7h.
Je suis arrivée un matin devant l'hôpital, je me suis mise à pleurer, j'ai appelé mon conjoint, j'ai dit je crois qu'il faut que j'arrête, il m'a dit faut que t'arrêtes.
Épuisement, manque de temps, salaires insuffisants, quand les médecins du public filent vers le privé, une fuite des compétences qu'il faut endiguer, c'est l'une des revendications des grévistes ce jeudi.
Thierry Breton face aux députés européens, la candidature française à la commission qui est encore loin d'être gagnée.
Les doutes de la chambre régionale des comptes sur l'emploi de l'ex-compagne de Gérard Collomb à la mairie de Lyon, lui l'assure, son poste était bien réel.
Il y a des dizaines de personnes qui l'ont vu dans ce poste, donc il n'y a pas d'emploi fictif, il y a bien eu un travail qui a été effectué.
Dans ce journal aussi, Google qui se lance dans la finance avec en ligne de mire nos données bancaires, Venise sous les eaux et une nouvelle étude sur le réchauffement climatique, mais cette fois au plus près de nous, en s'intéressant aux conséquences sur la santé de nos enfants.
L'idée, elle tient au fait qu'on sait qu'aujourd'hui la population se sent concernée par l'argument de la santé. Il y a une portée très efficace.
Il est 7h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal Marion Calais, Mathieu Béliard.
Un patient à réanimer en urgence, c'est le diagnostic des praticiens hospitaliers pour l'hôpital public.
L'ensemble du personnel est appelé aujourd'hui à se mobiliser pour obtenir des moyens, notamment pour enrayer l'exode vers le privé. Une fuite des compétences à tous les échelons. Explication et témoignage avec Ève Roger pour Europe 1.
Je suis arrivée un matin devant l'hôpital, je me suis mise à pleurer, j'ai appelé mon conjoint, j'ai dit je crois qu'il faut que j'arrête, il m'a dit faut que t'arrêtes.
Julie Pelletier a tenu 10 ans dans l'hôpital public avant de craquer. Aujourd'hui, médecin néphrologue dans le privé, elle ne fait plus de médecine d'avant-garde, mais elle se sent mieux.
Ce qui est mieux aujourd'hui, c'est que j'ai un rythme de travail qui est beaucoup plus posé. J'ai du temps pour parler avec les patients. Il y a des secrétaires en nombre, les infirmiers sont en nombre, les gens sont mieux dans leur peau pour travailler. Les patients, honnêtement, sont très bien pris en charge. Au niveau éthique, je m'y retrouve complètement. Mais effectivement, quand il y a une décompensation un peu étrange ou une infection atypique, je rappelle les collègues de l'hôpital et je réadresse le patient à l'hôpital.
Alors elle, ce n'est pas pour l'argent qu'elle est partie, contrairement aux infirmières, aides-soignants, kinés ou manipulateurs radio qui fuient en masse vers le privé depuis 2 ans, constatent les chefs de service impuissants. En Île-de-France, des centaines de postes de soignants ne sont plus pourvus, disent-ils, alors que le budget est là. Ils quittent l'hôpital public pour un meilleur salaire, 30% de plus en moyenne, mais aussi pour sauver leur peau, glisse un médecin qui se souvient d'une infirmière passionnée qui a fini la mort dans l'âme dans un laboratoire d'analyse médicale.
Merci Ève Roger. Alors concrètement, ce que réclament les grévistes, c'est une hausse du budget de l'hôpital de près de 2 milliards d'euros. C'est deux fois plus que ce qui était prévu dans le budget 2020.
Oui, et le gouvernement, qui doit annoncer un plan de soutien ce mois-ci, promet d'être à la hauteur, à l'image du secrétaire d'État Gabriel Attal hier soir sur Europe 1.
Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on entend et ce circuler dans la presse, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut se fier aux déclarations des membres du gouvernement qui sont concernés, en l'occurrence Agnès Buzyn s'agissant de la santé. Mmh. Elle s'exprimera le moment venu. Je rappelle qu'elle s'est déjà exprimée une première fois, qu'elle a annoncé un premier plan
750 millions
de plus de 700 pour les urgences. Millions d'euros pour la
là,
question
on parle
des urgences.
De l'hôpital dans son ensemble.
Oui. Et je pense que là-dessus, il faut évidemment se fier à la parole de la ministre qui ne s'est pour l'instant pas exprimée. On est parfaitement conscient et lucide sur les difficultés à l'hôpital, sur le malaise qu'il y a à l'hôpital.
Est-ce que vous pouvez exclure des annonces ridicules, pardon, comme 200 millions d'euros ?
Enfin, on a engagé un mouvement de fond de transformation de l'hôpital. Donc évidemment, les mesures, elles seront à la hauteur de notre ambition pour l'hôpital.
Vous avez entendu, hein, l'engagement est pris par Gabriel Attal au micro de David Doucan hier soir sur Europe 1. Maintenant, il y a cette manifestation cet après-midi, 14h, entre Paris, Port-Royal et les Invalides. Je vous attends, où que vous soyez en France, vous travaillez dans le secteur hospitalier 39-21. Les usagers aussi, est-ce que vous constatez la dégradation de ce service public ? Dégradation dénoncée par les manifestants 39-21 et le hashtag Europe 1.
L'audition de Thierry Breton devant les députés européens aujourd'hui à Bruxelles, après le camouflé Sylvie Goulard, la France espère voir son candidat validé. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles. Pour Europe 1, comment ça se présente cette fois ?
Eh bien, le camp français est incroyablement nerveux, sur les dents même. Personne ne se hasarde à faire un pronostic. Hier soir encore, le représentant du gouvernement à Bruxelles arpentait les couloirs du Parlement européen pour convaincre les hésitants. Même la présidente de la Commission européenne a jeté ses forces dans la bataille. Elle a lâché quelques concessions de dernière minute à la gauche européenne. Car c'est de la gauche que vient l'incertitude. La droite est acquise, elle considère l'ancien ministre de Jacques Chirac comme l'un des siens. Mais Thierry Breton a absolument besoin du soutien des socialistes et des sociaux-démocrates tout à l'heure s'il veut être validé comme commissaire européen. Il est allé rencontrer les députés de gauche les plus influents, il a fait bonne impression. Est-ce que cela va suffire ? Les élus étaient toujours divisés à quelques heures de l'audition. Rien ne semble donc jouer d'avance. Tout va dépendre de la performance de l'ex-patron d'Atos pendant ses 3 heures sur le grill. Ses réponses sur son indépendance par rapport à son ancienne entreprise sont particulièrement attendues.
Le décryptage d'Isabelle Horry pour Europe 1.
Il rejette tout emploi fictif de son ex-compagne, le défenseur de la défense du maire de Lyon, Gérard Collomb, alors que la Chambre régionale des comptes a mis en doute hier la réalité de ce poste. À Lyon, pour Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Voilà un caillou dans la chaussure dont l'actuel maire de Lyon se serait bien passé, lui qui est déjà pas mal chahuté par ses opposants dans la campagne municipale. En un mot, la Cour régionale des comptes a des doutes sur la réalité de l'emploi dans les services de la ville de son ex-compagne. Dans son rapport, la Cour affirme qu'elle n'a pas trouvé d'éléments matériels justifiant de cet emploi pour la période 2010-2018. Elle y a pourtant bien travaillé, affirme aujourd'hui Gérard Collomb, s'appuyant sur l'enquête administrative qu'il avait lui-même confiée au printemps dernier à un ancien magistrat, ancien conseiller d'État spécialisé dans les contentieux.
Monsieur Chabanol a interrogé un certain nombre de personnes dans les services où elle a travaillé et il y a des dizaines de personnes qui l'ont vu dans ce poste, à la fois les agents de la ville, du Grand Lyon, mais l'ensemble également des riverains avec qui ces réunions avaient lieu. Donc il n'y a pas d'emploi fictif. Il y a bien eu un travail qui a été effectué.
Affaire classée, conclut donc le maire, un constat peut-être un peu prématuré, car une enquête menée cette fois par le parquet national financier et qui avait donné lieu en juin dernier à une perquisition à l'hôtel de ville et au domicile de Gérard Collomb est toujours en cours à l'heure qu'il est. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il est 7h07.
Venise sera-t-elle la prochaine Atlantide? Une crainte plus que jamais relancée après la forte montée des eaux ces derniers jours.
Marée haute, vent et pluie. Résultat, un pic à 1,87 m mardi du jamais vu en plus de 50 ans. Et jusqu'à vendredi, les prochaines marées hautes sont attendues avec inquiétude.
Bonjour Vincent.
Et bonjour Mathieu.
Vous êtes en vacances à Venise, Vincent. D'abord, quelle est la situation ce matin? Qu'est-ce que vous voyez là au réveil?
Là, c'est encore tout sec. Les sirènes viennent juste de sonner il y a un quart d'heure à peu près. Donc l'eau va commencer à remonter normalement, comme tous les jours. Mais là, pour l'instant, tout va bien. C'est sec.
Vous avez vécu ce phénomène d'aqua alta, cette marée haute mardi à Venise. Vous aviez été prévenu, justement, ces sirènes, elles alarment tout de suite, immédiatement. Les Vénitiens se mobilisent et se préparent?
C'est ça. Des caissons, tout le monde sort dans la rue, les commerçants vont dans leur boutique pour essayer de limiter les dégâts, barricader un peu les portes, tout ça. Ouais.
À Venise, on vient voir les trésors, hein, la Fenice, la basilique Saint-Marc, tous ces trésors, tous ces monuments, ils se sont retrouvés sous les eaux. Ça fait quoi de voir ça quand on est touriste?
Ça fait très bizarre, ça fait très bizarre. Mais en même temps, c'est quand même un truc exceptionnel, donc. C'est avec plaisir que j'étais là, que je voyais ça. J'avais de l'eau jusqu'en dessous de la ceinture, pas de ma arrière. C'était vraiment, je pense que c'est un truc à voir, c'était incroyable. C'était
oui,
incroyable.
Évidemment, coup, c'était aussi assez insolite. Merci Vincent, merci d'abord de vous être réveillé pour Europe 1 pendant vos vacances à Venise avec cette carte postale un peu changée ce qui avait été acheté avant de partir et ce qu'on a retrouvé à l'arrivée.
Et après d'ailleurs ces marées hautes, le gouvernement italien devrait déclarer l'état d'urgence aujourd'hui. D'ores et déjà pour le ministre de l'Environnement, cette marée haute est la conséquence directe des changements climatiques.
Et posez-vous la question, est-ce que vos enfants connaîtront Venise telle que nous l'avons connue? Les effets de la hausse des températures que les scientifiques cherchent au-delà de ces phénomènes à rendre plus concrets. C'est ainsi que ce matin, une étude est publiée dans la revue The Lancet et s'intéresse aux conséquences sur la vie de nos enfants de ce réchauffement climatique. Pour Europe 1, Virginie Salmen.
Il y a deux scénarios. Le premier, si l'on reste sous la barre d'1,5 degré de réchauffement climatique, c'est-à-dire si le monde entame une transition écologique radicale, un enfant né aujourd'hui vivra la fin de l'utilisation du charbon, ce qui est une bonne nouvelle pour les émissions de CO2 quand il aura 6 ans. À l'âge de 21 ans, les toutes dernières voitures essence et diesel auront été vendues, ce sera fini. Et à ses 30 ans, la France sera parvenue à la neutralité carbone, c'est-à-dire pas plus d'émissions que ce que la Terre peut absorber. Ça, c'est le scénario optimiste. Et cette figure du bébé né en 2019, eh bien, c'est ce qu'ont trouvé les chercheurs pour sensibiliser les citoyens, selon Annelise Depoux, qui a contribué à ce rapport.
L'idée, en fait, d'avoir voulu prendre l'échelle d'un bébé, elle tient au fait qu'on sait qu'aujourd'hui, la population se sent concernée par la l'argument de la santé. Il y a une portée très efficace.
En revanche, si on continue sur la trajectoire actuelle, ce bébé, avec des poumons en formation, respirera un air de plus en plus toxique. Résultat, plus de risques d'asthme, de crise cardiaque, d'AVC. Le prix de la nourriture augmentera. Le rendement du maïs a déjà baissé de 20% environ par rapport aux années 60. Et à ses 70 ans, les températures auront déjà augmenté de 4 degrés.
Voilà, préserver la santé de nos enfants, voilà peut-être qui donnera aussi envie à chacun de faire quelque chose.
De toute façon,
chose.
Je ne sais plus quoi faire pour sensibiliser. Vous le comprenez avec cette étude pour le coup. Votre journal se poursuit dans un tout petit instant sur Europe 1 sur les traces de Largo Winch à Saint-Pétersbourg, sorti demain du 22e tome de cette série de bande dessinée. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h12. La suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
Ils étendent un peu plus leurs tentacules ou comment les GAFA continuent aujourd'hui de se diversifier.
C'est l'éclairage éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Après Apple, Amazon, Facebook, c'est maintenant Google qui se lance dans la finance.
Google qui va devenir banquier, effectivement, en proposant aux particuliers d'ouvrir des comptes courants avec l'aide d'une banque américaine, Citigroup. La finance, c'est en fait la nouvelle frontière des GAFA. Amazon envisage d'ouvrir aussi des comptes bancaires pour ses millions de clients. L'an dernier, Apple a lancé son Apple Card avec Goldman Sachs et quant à Facebook, eh bien, il n'a tout simplement pas abandonné son projet de monnaie mondiale, le Libra, malgré toutes les critiques qu'il rencontre de la part des États.
Oui, pour cause, hein, au bout de tout ça, Nicolas, potentiellement, il y a l'accès à nos données bancaires.
Et bien sûr, c'est leur rêve de tout connaître sur chacun de nous, nos habitudes de consommation, ce qu'on achète ou dans quel type de magasin, pour proposer ensuite d'autres services, y compris des crédits à la consommation par exemple. Petit à petit, les GAFA entrent sur cette chasse gardée des banques. Alors, ils ont quand même un handicap. Les clients leur font moins confiance. Il y a eu des scandales sur l'utilisation des données personnelles. Et d'ailleurs, au moment où Google hier annonçait son projet d'entrer dans la banque, on apprenait qu'il faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis pour avoir exploité les données de santé de 50 millions de patients américains. Bref, en entrant dans le monde de la finance, les GAFA veulent en savoir encore plus sur nous. Mais vous l'avez compris, ça n'est pas forcément très rassurant.
Oui, l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans ce journal. Merci.
Et on va reparler des GAFA dans un instant avec Axel de Tarlet. Le monde bouge, c'est tout autre chose. Nike qui veut boycotter Amazon, c'est dans un instant. Un match pour la qualification ce soir au Stade de France, les Bleus face à la Moldavie. S'ils gagnent, ils valideront leur ticket pour l'Euro 2020. Coup d'envoi 20h45 à suivre bien sûr sur Europe.
Enfin, un phénomène de librairie. 12 millions d'albums vendus en 30 ans. La série Largo Winch, nouvelle aventure demain pour son héros milliardaire. Thierry Geffrotin a pu lire en avant-première pour Europe 1 ses Voiles écarlates.
Largo Winch est dans le pétrin pour ne pas changer. Cette fois, le fourgon qui transportait ses titres a été braqué. Ses titres, autrement dit 1000 sociétés et 30 milliards de dollars. Volé mais pas perdu. D'ailleurs, son voleur lui donne rendez-vous en Russie. Largo Winch, en pleine tourmente financière, est toujours globe-trotteur. Cette 22e aventure nous plonge dans l'univers des oligarques, des services secrets russes, des hackers et d'une bourse fantôme. Et tout cela avec Saint-Pétersbourg en toile de fond. Éric Giacometti est le scénariste de ce nouvel album.
Moi, je connaissais déjà la Russie, j'avais été à Moscou et je m'étais documenté aussi sur Saint-Pétersbourg qui a une particularité. On a toute une nouvelle génération de milliardaires qui viennent de Saint-Pétersbourg. Donc, il y a le Saint-Pétersbourg pour les touristes et il y a celui du pouvoir et des affaires.
Durant cette aventure, on suit Largo Winch et la très slave et blonde Xenia dans Saint-Pétersbourg et en pleine forêt russe couverte de neige. Travail de main de maître du dessinateur Philippe Franck. On retrouve aussi les deux héros à Chicago et finalement, en pleine mer des Caraïbes. Éric Giacometti a construit une histoire passionnante, même quand on n'a jamais lu un Largo Winch.
Thierry Geffrotin, les Voiles écarlates, ce nouveau tome de Largo Winch sorti demain.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h, un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani.